Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
C'est finalement, en quelque sorte, la mise en lumière de nos deux natures. Vous savez que nous avons deux natures ? Et elles sont d'ailleurs clairement exposées et clairement dévoilées dans la Bible. Il y a la nature du vieil homme, même si on a 20 ans, et puis il y a la nature de l'homme nouveau. Alors on va lire ça ensemble et puis on va essayer de développer un peu ce que Paul veut nous dire au travers de ce texte. Alors voilà, donc Colossiens chapitre 3 verset 1er, et Paul affirme « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous, une autre version nous dit « affectionnez-vous » aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Voilà pour la situation de notre méditation ce matin. Et il est question, comme je l'ai souligné, d'une vie nouvelle qui est appelée à submerger l'ancienne. Voyez, en quelque sorte, l'image qui est là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir la place pour les deux. C'est l'une qui prend le dessus sur l'autre, mais laquelle ? Et il est question, naturellement, dans toutes les exhortations, des épîtres, finalement, de laisser Dieu à l'œuvre par son Saint-Esprit, pour que la nouvelle vie prenne toute la place, qu'elle déborde également. Alors, il faut bien dire que ça commence, et nous l'avions signalé la fois dernière, pour ceux qui étaient là, naturellement, ça suppose un interminable combat. Et je crois que nous aurons bien finalement besoin de toute notre vie pour cette œuvre de Dieu, pour nous-mêmes, un interminable combat pour la mise à mort du péché sous toutes ses formes. On soulignera quelques textes particuliers. Mais notre espérance de victoire, c'est une attitude de foi. Notre espérance de victoire est en Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas dans notre Église, ou dans notre pasteur, ou dans nos pasteurs, ou dans ceci et cela, dans quelques recettes ou quelques méthodes. Elle est en Christ, et Christ est suffisant. Et la parole nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Ça, il faut le dire aujourd'hui, dans un monde de dispersion, un monde chrétien de dispersion aussi. Donc, la victoire est en Christ, dans deux positions particulières. D'abord, un dépouillement et deuxièmement, dans un revêtement. On ne peut pas prendre deux habits à la fois. Je ne peux pas mettre deux vestes. Je peux mettre une veste et un par-dessus, si vous voulez, mais pas en ce moment. Mais toujours est-il qu'il faut se dévêtir, être dépouillé dans un sens et être revêtu dans un autre. Ce qui suppose, si nous voulons le caractériser, c'est qu'après la laideur du péché du vieil homme, il y ait besoin de voir apparaître la beauté de l'homme nouveau. Alors c'est une beauté qui n'est peut-être pas une beauté pour le monde, mais en tous les cas aux yeux de Christ, et reconnue aussi par l'Église. Donc, la beauté de l'homme nouveau, dont maintenant nous allons simplement étudier la nature, et le principe qui est mis en avant, c'est-à-dire l'amour. Vous avez remarqué, il est question dans ce texte, dans ce paragraphe, eh bien, de l'amour qui, il faut bien se rendre compte, est la seule puissance capable de venir à bout du mal qui est en nous. D'abord l'amour de Dieu pour nous, notre amour pour le Seigneur, notre amour pour sa parole, notre affection pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit. Notre amour également qui va avoir des conséquences sur les autres. C'est ce qui donnera la preuve que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ses disciples. Vous connaissez, hein, je ne cite pas les textes, mais vous les connaissez. Et tout renouvellement n'est rendu possible que dans l'amour, et être régénéré, c'est aimer. Ouais. Et on va tâcher de trouver les paroles qui conviennent pour étayer cela, parce que aimer, ce n'est plus s'aimer soi-même, notre ego, mais c'est aimer Dieu, et c'est aimer aussi autrui. Aimer la vérité, aimer ce qui est juste, aimer la lumière, aimer tout ce que Dieu, finalement, eh bien, tout ce qui est de Dieu. On pourrait dire cela comme ça. Alors, puisque le vieil homme puise ses ressources dans l'amour de soi, qui a donné égocentrique, le moyen de s'y soustraire, c'est s'ouvrir, et quand il est question de souffrir, il est question du cœur, c'est s'ouvrir à autre que soi-même. C'est bien l'opération première qui s'est réalisée lorsque nous nous sommes convertis à Jésus. Tout était ramené à nous-mêmes. À partir du moment où le Christ a éclairé notre cœur, eh bien, nous sommes ouverts à autre chose, à commencer à nous ouvrir pour le Seigneur. Et nous avons vu les autres, nous avons vu le monde aussi avec d'autres yeux. Mais cela, il faut notre participation volontaire et active. Eh oui. C'est pourquoi il y a des verbes qui caractérisent l'action dans notre texte, qui montre bien que, eh bien, ce n'est pas magique, hein, ce n'est pas automatique, ce n'est pas de dire, voilà, eh bien, maintenant, je connais ces choses et elles vont se faire automatiquement. Il y a une implication de notre part, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Et c'est pourquoi il est question dans notre texte, puisque c'est une question de volonté et d'action, de mise en action, et toujours dans la foi, parce que c'est pas, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire, c'est Dieu qui va les faire, il est seul capable de les faire. Alors, n'allons pas contrefaire l'œuvre de Dieu, il suffit tout simplement de le croire. Mais néanmoins, il est question de cette parole de Paul, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde ». En d'autres termes, si vous voulez que je traduise, « Revêtez-vous d'entrailles d'amour ». Dont le motif en est ces trois états propres à ceux qui sont sauvés. Et Paul va le dire pourquoi. Il nous demande, pourquoi Dieu nous demande de nous revêtir d'entrailles d'amour. Trois raisons. Puisque vous êtes d'abord élus. Premièrement. Puisque vous êtes sanctifiés. Deuxièmement. Et puisque vous êtes aimés de Dieu. Troisièmement. Si Dieu nous demande d'être remplis, d'avoir des entrailles d'amour, des entrailles de miséricorde, c'est parce que premièrement, nous avons été élus, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus et parce que nous sommes aimés de Dieu. Et ça, faut le savoir. Et faut s'en souvenir surtout. Privilège qui entraîne une responsabilité et toutes les grâces que nous recevons impliquent un devoir. Il faut remettre un petit peu les choses en place dans notre monde où finalement, on ne sait plus ce qu'est le devoir et la responsabilité. Et l'engagement. Parce que vous avez reçu. Parce que vous êtes sauvés, vous rendez compte, mes frères et sœurs, que parce que nous avons cette élection, parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Christ, le salut en Jésus-Christ, et que nous sommes aimés de Dieu, mais ça nous pousse finalement à ouvrir notre cœur pour que nous soyons remplis eh bien, de ces sentiments d'amour, cet amour agapé, hein, s'entend. Hein. Puisque, après s'être dépouillé, il faut se revêtir, on ne peut pas rester tout nu, pas possible. Hein. Après avoir été vidé, il faut être rempli. Il faut se remplir. Et voici ce que nous allons découvrir, à la différence de ce que nous avions dit mercredi dernier, puisqu'il fallait là tenir en échec le vieil homme, maintenant il faut se remplir. Et nous allons justement être remplis, être revêtus d'un nouvel habit, l'habit du chrétien. Mesdames, quand vous allez faire les magasins, les messieurs aussi, vous choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous va, selon vos moyens. Parce que il n'y a pas de limite dans le domaine. Mais toujours est-il que, et vous êtes fiers de porter un habit, un bel habit. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on porte quelque chose de nouveau, c'est toujours gratifiant. Après, quand on l'a porté pendant 10-15 ans, enfin, je m'étonnerais que ça dure autant, ben, toujours est-il que c'est passé, mais ça nous suscite quand même une certaine joie, une certaine satisfaction. Et bien, c'est la même chose. Il est question maintenant que Dieu veut nous habiller de l'homme nouveau, un vêtement glorieux, le vêtement que nous appellerons le vêtement glorieux de l'amour, qui s'articule autour de 5 vertus dans l'étude de notre texte et qui s'exprime dans nos relations humaines. C'est pas tant pour nous-mêmes, mais c'est aussi vers les autres, de la part de Dieu, en représentant ce qu'il y a de plus beau, de plus noble, de glorieux dans le ciel. 5 vertus. Et nous pourrions dire que ces 5 vertus proposées forment ce qu'on pourra appeler le lien de la perfection. Vous l'avez lu ensemble, hein, il est question le lien de la perfection, verset 14, et qui donne un fruit excellent, qui est le caractère même de Dieu, c'est le fruit de la paix. Vous avez remarqué avec moi dans le texte? Il est question finalement de ce vêtement dont nous allons voir un petit peu les éléments de ce costume. Ensuite, eh bien, cela produit un lien, une relation qui est très forte, qui va bien au-delà de ce que nous pourrions faire nous-mêmes en tant qu'hommes avec notre humanité, et qui produit un fruit, la paix. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Ça, c'est le verset 15. Alors, en premier lieu, l'exhortation de Paul porte sur des entrailles de miséricorde. Entrailles de miséricorde. C'est pas grave, ma sœur. Il y a une petite salle, c'est parce que c'est enregistré et tout va être pris. Si vous pouvez aller dans la petite salle, s'il pleut. Parce qu'il y a un enregistrement Internet. Alors, ça va faire du travail à notre frère, il va être obligé de tout gommer. Excusez-nous, hein, en toute merci pour votre compréhension. Maintenant, si ça s'arrête, on continue. Pour le petit, elle peut revenir, la dame. Voilà, donc, l'exhortation porte sur des entrailles de miséricorde. En d'autres termes, des sentiments, vous l'avez deviné avec moi, des sentiments de compassion. L'indifférence ou l'insensibilité chez un enfant de Dieu est une injure au Seigneur. On a quelquefois rencontré des enfants de Dieu, des chrétiens qui se disaient chrétiens et qui étaient impitoyables avec les autres. Quelquefois même avec leurs enfants, avec leur propre famille. Je dis bien ça, c'est une grave anomalie. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, la compassion. La joie du chrétien est inséparable d'une grande peine. Nous sommes heureux, nous l'avons dit tout à l'heure, jour de joie, jour de victoire. C'est ce qui nous occupe et c'est ce quoi nous vivons, la joie. Mais parce que nous sommes chrétiens, nous avons à côté de cela une grande peine. Et je vais vous expliquer pourquoi nous avons une grande peine. Elle est liée justement à cet esprit de compassion. Les misères en tout genre des hommes et surtout la perdition éternelle, les souffrances, finalement, c'est beaucoup de souffrances. Pour qui a des entrailles de miséricorde? Nous nous réjouissons, nous glorifions le Seigneur, certes. Mais à côté de cela, nous ne pouvons pas dire, eh bien moi, puisque je suis sauvé, peu importe le reste. Mais il y a aussi une grande souffrance qui accompagne cela. Parce que je vois finalement des frères et des sœurs qui souffrent, je vois des hommes qui souffrent autour de moi. Je vois surtout, et n'oublions pas, des hommes et des femmes qui sont perdus autour de moi. Alors j'ai une grande joie d'être sauvé, mais j'ai une grande peine parce qu'ils ne sont pas sauvés, eux. Et les questions d'entrailles de miséricorde, eh bien, c'est justement cette dimension qui m'est rappelée. Et si je me permets de donner un peu ce que Paul pouvait ressentir, Paul était un homme qui avait la joie de Christ en lui, mais il avait aussi une grande peine en raison, finalement, de ce qu'il connaissait, savait. Il dit « Je vous dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents dans la chair, qui sont des Israélites, etc. etc. » Paul exprime qu'il avait une grande souffrance. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait au fond de son cœur les sentiments de Christ et des entrailles de miséricorde. Alors c'est cela, hein ? Lorsque nous sommes entre nous, nous disons « Seigneur, nous sommes vraiment des hommes privilégiés, rachetés, nous sommes heureux et nous sommes dans la joie. » Mais lorsque nous regardons aussi autour de nous, nous ne pouvons pas dire « Eh bien, tant pis pour eux, c'est bien pour moi. » C'est ça les entrailles de miséricorde. Vous vous souvenez qu'il y a 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, j'ai fait un message là sur l'insensibilité, la sensibilité et l'hypersensibilité. Vient ensuite où Paul dit « Revêtez-vous de la bonté » ou « revêtez-vous de bonté ». C'est le deuxième élément du vêtement royal ou de noces. Dans un costume, il n'y a pas qu'une pièce. Dans un costume, je parle pour moi, je ne sais pas comment ça se passe pour les dames, parce que ça m'arrive de rentrer dans les magasins, mais ce n'est pas ma passion. Mais quand je vais acheter un costume, je regarde, il y a plusieurs éléments. Il y a le pantalon, il y a la veste, il y a la chemise, il y a la cravate, enfin il y a divers éléments, vous comprenez un peu comment ça se passe. Tout n'est pas dans un même... parce que ça sera un sac. Mais justement, la beauté, c'est que c'est disparaître. Enfin, il y a plusieurs éléments. Et la bonté vient ensuite. Et ce vêtement royal pourrait se nommer la bienveillance. Alors, on va savoir un peu ce que veut dire la bienveillance. Vouloir chercher ou rechercher le bien des autres. Et vous savez que le contraire s'appelle l'égoïsme. Revêtez-vous de bonté. Le bien des autres, les biens de mon frère et de ma sœur. Dieu nous donne un grand bonheur, alors partageons-le. Intéressons-nous à ceux d'à côté. Puisque nous sommes dépositaires de cela, c'est pas seulement pour nous. Et plus nous pourrons le partager, plus il se multipliera. Vous connaissez l'histoire de la multiplication des pains. Il faut donner. Et à partir du moment où on retient, eh bien, on perd tout. On s'appauvrit, comme le dit le livre des Proverbes. C'est un état d'esprit, la bienveillance, la bonté. C'est un état qui va beaucoup plus loin, c'est un état qui se situe au niveau de notre cœur, et nous pourrions le nommer, c'est un souci affectueux. Parce que le souci, ça semble un petit peu antinomique, ça. Je me soucie avec une grande affection, parce que j'aime. C'est oublier que mes frères et mes sœurs, et puis bien d'autres, ont probablement leurs défauts. Mais cette bonté me fait espérer et m'encourage à favoriser leur bien-être, leur paix, leur joie. Voilà ce que c'est qu'être bon. Voilà ce que c'est que la bonté. Voyez ? Dans cette perspective. Aimer pour le bien, aimer pour faire du bien. Ça fait partie justement du vêtement nouveau, de l'homme nouveau. Du chrétien. En troisième lieu, l'apôtre Paul, après avoir dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de bonté », il ajoute ceci « Revêtez-vous d'humilité ». La vraie compassion, la vraie bonté a pour allié la modestie et la simplicité d'être. Oui. On se plaît dans la présence de gens qui sont modestes, de gens qui ne sont pas en train de vider leur sac de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont, de ceci et cela, etc., de leur qualité, de décliner ceci, cela. Ça se repère, hein. Ça s'appelle des vaniteux, ça s'appelle des orgueilleux. Mais des gens qui ont cette simplicité d'être, même quelle que soit leur situation ou leur position, et qui quelque part, eh bien là, sont là, et que nous entrons en relation avec eux, mais ça fait du bien. Vous savez que Jésus a dit cette parole, « Je suis doux, et humble de cœur, hein. Et ça, faut pas l'oublier. Oui, la modestie et la simplicité d'être. C'est porter un réel intérêt aux autres, c'est forcément s'être désintéressé de soi-même. On prend un peu de l'intérêt de soi-même que l'on met de côté pour le donner aux autres, quelque part. Notre petite personne que nous choyons et qui est véritablement la mise en avant dans notre société aujourd'hui. Quelquefois, c'est désespérant de voir la place, l'investissement, le temps, l'argent qui est consacré à un corps qui est voué à passer. Bon, il faut de l'hygiène. N'allez pas comprendre autre chose. Et il y a certainement des soins à donner, mais de voir ce que l'on peut finalement investir pour des choses qui sont passagères. C'est terrible cela, quelque part. Il faut savoir s'abaisser aussi, c'est ça l'humilité. S'abaisser, se mettre au même niveau. Et comme l'apôtre Paul le dira dans une épître, voir l'autre plus que soi. C'est ça, honorer les autres. Et vous savez qu'il y a une gloire qui s'attache à honorer les autres. On a rencontré parfois des gens qui nous disent, comme je le soulignais il y a un instant, tout leur état de service. Mais il y a une parole aussi dans le livre des psaumes qui dit « Que ce ne soit pas ta bouche qui te loue, mais la bouche des autres. » Ouais. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans être applaudis, sans être loués, sans être... Mais ça ne favorise pas le développement de l'homme nouveau. Ça ne fait que finalement stimuler le vieil homme à un moment donné. Parce que vous souvenez, il est dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, ça suppose que on est mort à autre chose et qu'on est ressuscité à une autre vie. Et je crois qu'il faut revenir à des choses qui sont simples. Et il faut revenir à cette étude toute simple de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a là ces deux natures, l'ancienne et la nouvelle. Et quelquefois, dans nos milieux, dans nos églises, dans nos prédications, dans les messages qui sont donnés, eh bien, finalement, on caresse dans le bon sens. Là, on essaie de ressusciter le vieil homme. Vous comprenez ce que je veux dire dans ce sens, qu'il n'est pas question de matraquer et de faire des choses semblables. Mais il est question de prendre les choses dans le bon sens et de laisser surtout la vie de l'esprit venir en nous et faire son œuvre. Ça, c'est important. Voici une autre parure du vêtement, l'habit de noces, l'habit royal. Revêtez-vous de douceur. Après l'humilité, la douceur. Un caractère, je le signalais tout à l'heure, doux et humble. Eh bien, un caractère doux et humble, mes frères et sœurs, évite ou épargne à autrui tout ce qui peut l'affliger, le blesser et l'attrister. Moi, je regrette profondément, mais vraiment profondément, et c'est pas du... je dis pas ça pour ça, enfin, je dis pas ça comme ça, mais je regrette profondément que les chrétiens se fassent du mal les uns les autres. On doit se faire du bien et pas du mal. Alors tout le monde dit « d'accord », mais dans la pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Quelquefois, il m'est arrivé d'entendre certains chrétiens qui, bon pensant être plus spirituels, ont été voir d'autres frères et sœurs, qui peut-être faute ou pas faute, ou simplement inadvertance, se sont dit « moi, je suis allé les voir et je leur ai dit leur quête vérité ». Eh bien, c'est bien gentil, mais moi, pour moi, ça ne portera pas le fruit que vous escomptez, que les chrétiens escomptaient. Parce qu'il nous est dit de redresser avec douceur celui qui pêche. Il n'est pas question de l'enfoncer à trois pieds sous terre pour lui dire au moins il comprendra. Parce que on met en avant la loi, mal comprise en plus, au lieu de mettre la grâce. Vous savez, c'est pas en courbant les gens, en les humiliant, voire même publiquement, qu'ils vont changer. Au contraire, vous allez les endurcir. Ils vont avoir vraiment du ressentiment. Et ils diront, ben moi, si c'est ça, ça ne marche pas. Et je dirais quelque part, vous allez penser que je suis pas tout à fait au clair, mais quelque part, c'est vraiment pas la bonne méthode. Certainement pas. Vous savez, il y a la stigmatisation du péché, mais faisons pas l'amalgame entre le péché et le pécheur. Parce que si on veut détruire finalement le péché, faut pas détruire le pécheur. Alors on a souvent, quelquefois, complètement mélangé les choses en disant « mais moi je suis spirituel parce que je fais ceci, je fais cela ». Alors je rappelle que le caractère doux et humble évite ou épargne autrui ce qui peut l'affliger, le blesser ou l'attrister. Et dans le but finalement de l'approcher d'une manière qui soit dans le caractère de Christ pour l'aider à changer et pas susciter du ressentiment et de la haine. Et qui nous dit que nous avons raison quelquefois dans certaines choses ? Parce que nous sommes beaucoup plus subjectifs qu'objectifs. Parce que nous avons entendu dire, parce que nous avons eu des brides, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Alors, en raison de cela, on se dit, moi je remonte mes manches, et puis j'y vais. Vous savez, il y a eu des maladresses, il y a eu des choses qui ont été faites, des choses terribles. Et on peut pleurer aussi sur nos églises qui se vident, mais quelquefois elles ne se sont pas vidées toutes seules. Et soyez revêtus de patience, de douceur, pardon, parce que c'est le contraire de la dureté. Et cette douceur, ce n'est pas de la mièvrerie non plus. Et les gens disent, ah ben on ne dit plus rien parce que... Non, ce qui compte, frères et sœurs, c'est d'être spirituel, c'est tout. Et si on est spirituel, Dieu nous saura nous donner la bonne, le bon doigté, le bon moment. Et nous saurons faire les choses et nous gagnerons des âmes, nous gagnerons des gens, nous récupérerons peut-être des fils et des filles prodigues. Parce que moi, je crois intimement que la douceur, elle est réparatrice et elle est rétablissante dans l'esprit de Christ. Mais aujourd'hui, on emploie tellement d'autres méthodes pour récupérer les gens. Et quelquefois, dans un sens aussi, on ne dit plus rien parce qu'il ne faut plus rien dire, parce qu'on a peur de les perdre. Mais écoutez, relisons et reprenons la parole qui nous enseigne. Et pour finir, il ne faut pas omettre la patience. Revêtez-vous de patience qui nous évite de nous enflammer à la moindre offense et de tout casser. Là aussi, hein, c'est un apprentissage. J'ai entendu cela et je pars au quart de tour, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des nouvelles qu'on entend quelquefois. Hein. Pff, notre sang ne fait qu'un tour, je ne sais pas combien, mais bon, il fait un tour. Et là, on se met tout de suite sur nos grands chevaux et on commence à se préparer au combat. Eh bien, il faut être patient. Et qui nous dit que c'est nous de faire certaines choses? Est-ce que le Seigneur n'a pas une autre façon? C'est attendre dans un état d'esprit et de cœur que malgré tout, et malgré, et envers et contre tout, Dieu aura le dernier mot dans une situation, dans un problème, dans un conflit. C'est faire confiance à Dieu et aux autres. Vous savez, si un frère est baptisé du Saint-Esprit, moi j'ai l'habitude de dire, ça paraît pas parce que quelquefois on a peut-être laissé passer le message en disant « Alain, il n'intervient pas. Tiens, vous savez pas ce que je fais. Hein ? Je le dis parce que je voudrais que vous le sachiez. Ah, si j'étais à sa place, si j'étais le pasteur, parce que c'est toujours la même chose, je ferais ceci, je ferais cela. Mais premièrement, vous n'êtes pas le pasteur, je suis désolé de le dire, c'est comme ça, et être à ma place n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais, si j'étais à la place, je ferais ceci et cela, mais vous ne savez pas ce que je fais. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Et je n'ai pas toujours besoin de l'expliquer à tout le monde. Parce que premièrement, ça ne serait peut-être pas toujours compris. Mais il y a une chose que vous pouvez être sûr, c'est quand il y a une situation difficile, nous nous mettons devant Dieu et nous demandons au Seigneur comment faut faire. On a solutionné des problèmes dans le passé, mais les problèmes d'aujourd'hui ne sont jamais comme ceux du passé, parce qu'il y a toujours un renouvellement et on a affaire à des personnes différentes. Ça marche avec, finalement, là, l'impulsion et le tempo de Dieu. Devant le même problème, aujourd'hui, il y a 10 ans, on ne donnera pas les mêmes solutions. Parce qu'on n'a pas affaire à la même personne. Mais en tous les cas, le résultat devra être un résultat qui glorifie le Seigneur. La patience. Ça, c'est important. Et ça, c'est faire confiance au Seigneur plus qu'à moi. Quelquefois, Dieu nous dit, mais attends, tu te mets de côté, tu restes derrière, c'est moi qui vais m'occuper du problème. Et tu vas voir, ça va être bien réglé. Cela exclut les règlements de compte personnels, les règlements de compte par nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, là où nous avons déjà commencé à revêtir l'habit de noces, l'habit de l'homme nouveau, alors ainsi équipés, ainsi parés, nous pouvons maintenant envisager l'étape suivante dans le texte. Et l'étape suivante dans le texte nous amène à considérer 2 choses, supporter et pardonner. Parce que pour en arriver là, il faut d'abord avoir entendu ce qui s'est passé auparavant. Alors au verset 13, il est dit cette parole... On peut lire à partir du verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, et supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Vous n'avez probablement jamais eu à vous plaindre de personne. Donc c'est une lettre morte. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Et pourquoi Paul l'a écrit. Non, c'est pas ça. Supporter, c'est accepter mon semblable tel qu'il est, l'accepter avec ses travers, parce que si je me suis imaginé que tous les autres avaient des travers, il y avait que moi qui n'en avais pas. Vous connaissez l'histoire de la poutre? Ah oui, c'est plus gros que ça quand même. Enfin, vous avez deviné un petit peu, je mime, puis la paille. Alors, c'est accepter ses travers, ses manquements, Et qu'est-ce qu'il peut m'agacer quelque part? Il y a des gens qui nous agacent, non? Ils nous portent sur les nerfs, enfin, c'est ce que nous disons. C'est faire l'effort qu'en dépit de ses défauts que je vois, parce qu'ils sont visibles, il doit bien y avoir quelques, entre guillemets, rares qualités chez lui et des bons côtés. Alors là, c'est pourquoi Paul dit « supporter ». Parce que si vous n'arrivez pas à le supporter, lui peut-être dire la même chose. Je ne le supporte pas non plus. Alors ça fait beaucoup, hein. Ah ben ça fait tous les ingrédients pour une explosion. La poudre est déjà là. Le support mutuel, c'est établir l'équité. Eh oui. Et la justice. S'il n'est pas parfait, est-ce que je le suis, moi, personnellement? Parce que pour demander des comptes aux autres, faut d'abord aussi quelquefois savoir où l'on en est soi-même. Parce qu'on ne péchera peut-être pas de la même manière. Moi, j'ai vu des chrétiens qui étaient outrés, peut-être pour des bonnes raisons, parce que c'était des péchés grossiers, et puis il y avait des choses qui étaient terribles, hein, et qui scandalisaient tout le monde. C'était le péché, c'est vrai. Mais il y avait, dans leur vie de ceux qui critiquaient et de ceux qui jugeaient, des choses beaucoup plus raffinées, telles que la mauvaise langue, le mensonge. Vous savez, ça rampe, ça se voit pas. Ça se cache dans toutes les broussailles et dans tous les buissons. Mais je peux vous dire que c'est aussi grave que bien des choses que l'on montre et qui sont visibles des autres. Un mauvais cœur. Alors, ce support mutuel, c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est difficile d'accepter les vexations, les déceptions que peuvent nous infliger nos proches. Parce que c'est souvent avec nos proches, hein, c'est les gens qu'on connaît. Hein. Ceux qu'on ne connaît pas, « Seigneur, je te bénis pour mon prochain parce qu'il est vrai. Je te bénis pour mon prochain et je te bénis encore plus pour mon lointain parce qu'il est loin. » Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu nous habille d'une tenue sans tache, d'une tenue sans haine et sans ressentiment. C'est une tenue anti-tout ce qui fait ou rend le mal. C'est ça dont Dieu veut que nous soyons revêtus. C'est ça le caractère chrétien. Pour nous amener à une chose, même si nous avons été vexés, nous avons été déçus, nous avons été blessés, nous en arrivons à cet autre point. Après le support, c'est le pardon. C'est un état d'esprit antistatique. Ça colle pas. Oui, ça n'adhère pas. C'est un anti-adhésif qui pulvérise la rouille de nos cœurs. Et la rouille de nos cœurs, c'est tout ce qu'il y a de ressentiment. Et ça, c'est tout simplement, finalement, la corrosion humaine. Eh oui. Et vous savez, c'est terrible. Tout cela, d'avoir du ressentiment, de refuser de pardonner, il m'a fait du mal, mais moi je ne l'oublierai jamais. La parole nous dit, pardonnez-vous réciproquement, afin de rétablir et ensuite de conserver la communion quand elle a été viciée par l'offense et par toutes sortes de mauvaises choses. Pardonnez de tout votre cœur, nous dit Jésus dans la parabole du serviteur impitoyable. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, votre Père non plus ne vous pardonnera pas, non, de la même manière. Pardonnez de tout votre cœur, sans oublier la référence suprême qui est dans notre texte, comme Christ vous a pardonné. Alors là, nous devons véritablement revoir peut-être les choses sous le vrai jour. Si moi je ne pardonne pas, c'est pas facile de pardonner, mais si je ne pardonne pas, je dois me dire que Christ ne peut pas me pardonner non plus. Je n'ai pas été pardonné, ou si j'ai été pardonné, maintenant, c'est plus possible. Parce que moi, je reprends finalement, et je ne veux pas donner à l'autre ce que moi j'ai reçu. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Le pardon de Christ qui découle de son sacrifice à la croix est le motif et le modèle de pardon que nous devons à ceux qui nous ont offensés et ceux qui nous ont blessés. C'est pas en me normalisant sur tout mon environnement et les circonstances et les conditions de ces blessures, de ces meurtrissures et de toutes ces bavures qu'il y a eu, mais c'est en me mettant en contact et comme seul modèle le pardon que Christ m'a donné en mourant pour moi sur la croix du calvaire. Et la Bible en est assez, enfin, elle en parle assez suffisamment pour avoir les éléments dont nous avons besoin. Comme Christ vous a pardonné. Et je vais bientôt finir. Notre vêtement de chrétien, notre habit de noces, doit sa beauté suprême à ce qui suit. Par cette expression, par-dessus tout. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. On aime bien parer un bel habit. Mesdames, vous savez, hein, vous mettez quelque chose, enfin bon, je ne sais pas. Hein, Alors, ça, c'est le bijou. C'est la perle qui accompagne, qui vient dessus. C'est la couronne qui achève l'habillement et le rend magnifique, splendide. Je dirais même pour le, dans le domaine spirituel, à la gloire de Dieu, bien sûr. Pour nous rappeler au passage que l'amour n'est pas un simple sentiment, mais un acte. Ouais. Être amoureux est une chose, aimer en est une autre. Parce qu'on peut être amoureux et ne plus l'être. Mais être amoureux doit découler justement à rentrer dans cette autre dimension qui est d'aimer et d'aimer toujours, d'aimer avec persévérance, d'aimer avec fidélité. Mais aujourd'hui, le mot amour a été complètement défiguré, galvaudé, parce qu'il ne veut plus rien dire du tout. Je t'aime pour toujours, et 15 jours après, 3 semaines après, plus personne. C'est terrible ça. Alors, je dis que c'est un acte. Cet amour-là n'est pas uniquement la réponse à l'amour de l'autre, parce qu'il est gratuit. Il n'attend rien en retour, mais j'aime parce que j'aime. J'aime pour la personne elle-même et non pas pour ce qu'elle me donne, ce que je peux en soutirer, ce que je peux en tirer. Et cet amour gratuit est capable, finalement, d'aimer ce qui n'est pas aimable. C'est l'expression de vouloir aimer, dont la source est tout simplement la grâce. Une volonté qui dépasse le goût, le caprice, l'intérêt, qui souvent gouverne les amours humains, parce que c'est comme ça que ça se passe dans l'humanité, et qui réagit par l'attente de recevoir plutôt que de donner ou de se sacrifier. C'est ça le véritable amour. Si je dis « je t'aime parce que tu vas me donner quelque chose », ça c'est une chose qui n'est pas spirituelle. Ça ne vient pas du royaume de Dieu, ça ne vient pas de la pensée de Dieu. Mais par contre, quand je dis « je t'aime parce que je voudrais te donner, je voudrais t'offrir, je voudrais me sacrifier », alors c'est l'amour agapé. Volonté d'aimer. Et la conclusion de notre texte, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Je parlerai de la paix de Dieu. Je soulignerai la paix avec Dieu ou la paix en Dieu. Je parlerai également de la paix du cœur, c'est-à-dire la paix avec soi-même, ce qui n'est pas toujours évident chez tous les gens. Découlera de cela la paix avec les autres, et tout cela concourt à la paix de l'Église, dans l'Église, par l'Église et tout autour de l'Église. Et la paix de Christ. Il y a tout un ensemble de choses, il y a une chose, mais avec différentes facettes. Et quelquefois, on peut parler de l'amour de Christ, on le chante, on le proclame, on le dit, mais il manque quelque chose. On n'aime pas toujours les autres. On aime bien tous les autres quand ils sont ensemble, mais peut-être un en particulier, il ne passe pas. Alors il est dit que celui qui dit « j'aime Dieu » et qui n'aime pas son frère, eh bien c'est un « vous avez tout compris ». Le cœur est le siège de l'amour, l'amour véritable. Et il faut être bien au courant de cette chose, que cet amour véritable ne peut être, on ne peut être en paix lorsqu'il est baigné d'un climat d'accusation, de suspicion et de dissension. C'est pour cela que les églises qui sont en division devrait s'humilier parce qu'il y a vraiment une carence d'amour. Ouais. Là où est l'Esprit de Christ, c'est la liberté. Là où est l'Esprit de Christ, c'est aussi l'amour qui règne. Alors n'allons pas nous raconter des histoires en disant, vous savez, notre Église n'a jamais été aussi belle, n'a jamais été aussi prospère, Dieu fait des miracles. Et s'il y a véritablement, on sent qu'il y a un climat vicié où les gens sont en train de s'épier les uns les autres. C'est délétère. Alors, n'écoutons pas ces paroles qui nous endorment, qui viennent du malin, mais écoutons la parole de Dieu. Et on sait juger des choses. Et nous avons besoin de faire un effort pour nous aimer les uns les autres. Puis ceux qui ne veulent pas aimer, ben, prions pour eux, pour que véritablement, eh bien, ils apprennent à aimer. Mais qu'en tous les cas, nous, on ne veut pas leur faire de mal, mais qu'ils ne fassent pas de mal aux autres. Alors l'amour ne peut pas se développer dans un climat, donc je l'ai dit, de dissension. Ce sont des choses délétères, qui tuent la joie, qui tuent la ferveur, qui flétrissent la vie spirituelle et qui stoppent le progrès et qui minent le témoignage chrétien. Alors on a autre chose à faire que de se laisser d'encenser notre vieil homme, qui va dans ce sens naturellement. Un climat d'amour assurera toujours la paix. Et pour terminer, l'apôtre Paul rappelle cette vérité aussi pratique qu'essentielle. Soyez reconnaissants. S'il nous semble parfois, en raison de notre nature d'homme, de donner ou de nous donner ou de nous sacrifier pour les autres, au travers des vertus déjà énumérées, celles que, par lesquelles nous avons passé quelques instants, commençons du moins par reconnaître. Vous avez remarqué, soyez reconnaissants. Et être reconnaissant, c'est reconnaître. Reconnaître quelque chose, reconnaître quelqu'un. En d'autres termes, reconnaissons que nous avons tout reçu. Si j'ai tout reçu, je ne serai pas jaloux, je ne serai pas envieux. Parce que j'ai déjà reçu. Mais le Seigneur me l'a donné, c'est à moi de l'exploiter. C'est à moi de le faire valoir. Je suis reconnaissant d'avoir déjà tout reçu, et tout commence par la reconnaissance qui est l'apprentissage de l'amour, et le reste en découlera. Vous voulez être riche, mes frères et mes sœurs? Vous voulez être encore plus riche? Vous voulez être abondamment riche de ces bénédictions qui viennent du ciel? Eh bien, reconnaissez. Reconnaissez dans le Seigneur que c'est lui qui est tout. Il est en vous, il est en tous. Et que c'est lui qui dispense de tous les trésors. Mais à partir du moment où je suis dans un mauvais état d'esprit, un état de cœur desséché, mais il ne peut rien me donner, je suis imperméable, je me suis rendu imperméable. Alors je veux reconnaître, et nos cultes, ils sont faits pour que nous reconnaissions. Soyez reconnaissants. Seul l'amour rend possible l'impossible, vous le savez. Alors reconnaître que nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Première expression que nous trouvons dans notre texte. Que nous sommes ressuscités en Christ. Reconnaître que nos véritables affections sont en haut et que notre vie est cachée en Christ et que nous sommes morts aux choses d'en bas. Vous voyez l'établissement finalement pour se vêtir, pour aller juste à se vêtir. Reconnaître que la réalité de notre humanité, c'est le vieil homme. Mais c'est pas tout. Reconnaître qu'il nous faut nous en dépouiller pour laisser la place à l'homme nouveau, revêtu de vertu à l'image de celui qui nous a sauvés, qui nous a créés, qui nous a sauvés. Reconnaître également que le grand don de Dieu qui nous donne la force d'aimer, c'est l'amour, l'amour de Dieu, dont finalement, eh bien, dont se révèle à ce moment-là et sort de cet amour la paix. Et savoir remercier du fond du cœur, c'est être reconnaissant. C'est faire la preuve que nous sommes sur la voie des choses d'en haut, que nous sommes en connexion avec les choses d'en haut, que finalement notre motivation et notre énergie, nous pourrions dire, notre vie est réelle, mais elle vient d'en haut et non pas d'en bas. Et que Christ est notre vie, c'est ce qui fera à dire à l'apôtre Paul, cette parole que vous connaissez, si je vis aujourd'hui, si je vis sur la terre, si je vis dans la chair aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà l'homme nouveau. Et puis je termine par une dernière citation, puisqu'il était question d'avoir un nouvel habit, un homme nouveau, de nous revêtir d'un habit royal. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et versets 1 à 3, il nous est dit ceci, « Nous savons en effet que si cette tente, cet habit, on pourrait le traduire comme ça si vous voulez, cette maison, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est une exhortation à la régénération, à la sanctification, avec des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Je suis ressuscité en Christ, je suis un homme nouveau et je dois ouvrir les portes à l'action du Saint-Esprit pour qu'il fasse de moi une nouvelle créature. Je le suis déjà. Je suis racheté, je suis sauvé. Mais nous pourrions dire que l'homme nouveau n'est pas tout à fait nouveau. Il est en phase de renouvellement. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, j'ai besoin, tu me connais. Tu connais, Père éternel, que... En effet, Seigneur, tu as fait une œuvre, et je te bénis, je m'incline devant ta majesté divine de m'avoir sauvé. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que la vision qui la tienne de moi-même, eh bien c'est une vision glorieuse et parfaite. Et moi, Seigneur, ce que je peux voir, c'est tellement partiel, c'est tellement fragmentaire. Mais néanmoins, Seigneur, tu nous parles d'un revêtement, d'un renouvellement. Alors le renouvellement, il ne se fait pas tout de suite. S'il y a en effet le vieil homme qui doit disparaître, l'homme nouveau doit grandir, mais il y a un conflit. Il y a le conflit, Seigneur, perpétuel, mais néanmoins, Seigneur, je veux regarder à toi. Parce que même dans ce conflit perpétuel, tu nous assures la paix, Tu nous assures ta paix divine, Seigneur. Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Te bénissons parce qu'aujourd'hui nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Notre véritable identité, elle est là-haut déjà. Et Seigneur, tu es en train de nous parfaire, tu es en train de nous travailler, tu es en train de nous façonner, tu es en train de nous modeler, tu es en train d'enlever les scories, d'enlever toutes les impuretés, Seigneur. Et ça, c'est un travail qui est le travail du Saint-Esprit, dans la mesure où, Seigneur, je le veux, je le désire. Et je ne peux le faire qu'avec la force, eh bien, Seigneur, de ton amour en moi. Si je te dis, Seigneur, eh bien, que mon amour pour toi soit plus fort que tous mes autres amours, toutes les choses que j'aime et qui quelquefois ne sont pas toujours légitimes et ne sont pas toujours bonnes. Seigneur, en effet, Père éternel, viens en aide à ton peuple. Donne-nous ton secours et ton aide. Et donne-nous de porter cet habit de noces, cet habit royal, cet habit qui glorifie Jésus. Oui, merci, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui est rentré dans la salle des noces d'une manière indue et dont le maître, dont le roi lui a dit, « Eh bien, pars d'ici, mon ami, parce que tu n'as pas l'habit de noces. » Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous ta grâce et ton secours. Merci, mon Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs. Fais-leur du bien. Aide-nous, Père éternel, d'avoir les qualités, de nous d'avoir les sentiments. Oui, Seigneur, qui était en Jésus-Christ, de pouvoir aimer réellement. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen.